Hop. Bonjour à tous. Je vais commencer par prier. Dieu et Père, on veut te remercier pour ces moments de louange ce matin, pour ta présence parmi nous. Bien qu'elle soit invisible à nos yeux, elle est plus réelle que beaucoup d'autres choses qui nous entourent et sur lesquelles parfois on peut compter. On veut te remercier pour la parole que tu nous donnes ce matin et on te prie qu'elle puisse parler à nos cœurs, que ça soit vraiment ton esprit qui nous parle. Je te prie de m'équiper, de me donner les mots justes et que tu ouvres nos oreilles pour être transformé par ta parole. Amen. Alors, est-ce que vous vous souvenez dans quel livre on étudie en ce moment ? Jacques, alors il y en a un qui suit.
Ah oui.
Trop facile. Et donc c'est la quatrième prédication sur Jacques. On a eu donc j'avais fait Jacques 1, Joël Jacques 2, Mamie avait commencé Jacques 3 et je vais faire la fin de Jacques 3. Il restera encore deux prêches. J'espère que ça vous intéresse autant que ça nous intéresse. J'ai peur, il y a de moins en moins de monde. J'espère que c'est pas lié à cette étude suivie. voilà donc Jacques. Frère de Jésus, le fils de Marie aussi, qui a un style très direct, qui est assez proche des proverbes, qui est assez proche des sermons aussi de Jésus, son frère donc, et notamment du sermon sur la montagne. Et donc Jacques nous exhorte à être cohérents, à avoir une foi qui est consistante, et il nous donne des tests un peu dans son une manière de lire l'épître de Jacques, c'est de voir différents tests à notre foi. Quels sont les signes qui montrent que j'ai la foi qui sauve ? Quels sont les signes que ma piété, que ma religion n'est pas une contrefaçon ? Que ce n'est pas une apparence qui, au dernier jour, va s'évaporer ? Que ce dernier jour où Jésus va revenir, on a parlé de ce retour là ce matin, où il va revenir en gloire, soit pour nous inviter à ces noces, à ce festin de l'agneau, qui est une image d'une éternité de bonheur, soit pour nous dire « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et alors, voilà, différents tests qu'on a parcourus, celui des épreuves, il a parlé, la foi qui se concrétise par des actes de compassion. La semaine dernière, c'était assez surprenant, mais le test de la manière dont on utilise notre langue, dont on parle, et aujourd'hui, la sagesse. On a répété plusieurs fois ce verset, un verset de Jacques pendant cette étude, c'est le verset du chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Alors, voilà, c'est la solennité de Jacques qui ne veut pas qu'on soit dans l'erreur, qu'on se fasse des illusions. Il ne nous laisse pas nous endormir dans notre piété tranquille. Et il veut qu'on aille, qu'on soit assuré d'une foi qui nous sauve. Alors, plus particulièrement, vous avez vu le titre que j'ai choisi de donner à ce message. Ici, on va s'intéresser à la sagesse et voir que bon, la sagesse n'est pas une option. C'est pas réservé à certaines personnes. C'est un sujet majeur de la Bible. C'est un des attributs de Dieu. J'ai noté ce verset dans Romains 11, verset 33. Paul a essayé d'expliquer un peu le plan de Dieu. Et à un moment, il tombe quasiment en extase. Il s'exalte. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. La sagesse de Dieu. Et Jésus, qui est le Fils de Dieu, Dieu vivant, venu sous la forme d'un homme sur terre, il a manifesté dès son enfance, dès sa plus tendre jeunesse, une grande sagesse. Vous vous souvenez de cet épisode où il est au temple, il va aller voir les grands enseignants du temple, et eux, ils sont tous étonnés par cet enfant de 12 ans qui est capable de donner des réponses pleines de sagesse. Et même plus tard, j'ai noté qu'à certains moments, on nous dit, les gens s'étonnaient de ses miracles et de sa sagesse, comme au même niveau. On se doute qu'on serait vite étonné par des miracles, mais la sagesse de Jésus était telle qu'on s'en étonnait au même point que ses miracles. Il y a aussi dans la Bible des livres qui sont dits de la littérature de sagesse. Il y en a plusieurs. Est-ce que vous pensez pouvoir me les énumérer? Proverbes, ouais. Ecclésiaste, psaume, ça fait partie des livres de sagesse, ouais. Job. Et alors Cantique des Cantiques aussi, pour compléter. Qu'on classe dans la littérature de sagesse, qui est un peu un peu un ovni dans la Bible. Donc la sagesse est un sujet majeur. Et donc, ce n'est pas une option. Elle est le témoignage de notre salut. Et c'est un des tests que nous propose Jacques pour vous voir si on est vraiment dans la foi. Donc, je vais vous proposer de lire le texte maintenant. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure. Ensuite, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Alors quand l'écriture est si claire, hein, on se dit au début, mais qu'est-ce que je vais bien vous pouvoir dire? Tout est là. Bon, et puis après, quand on est bavard, on arrive toujours à trouver quelque chose à dire. Si on tape le mot sagesse sur un site de photos, j'ai cherché des photos pour illustrer un peu cette présentation, on va surtout avoir des paysages ou des personnes qui méditent, immobiles, des livres aussi. Et pourtant, la première remarque qu'on voit en lisant ce texte, qu'on peut se faire, c'est que la sagesse, selon Jacques, c'est pas d'abord abstrait, statique. Il y a quelque chose de très concret. Alors nous, on a l'habitude de l'image du hibou pour la sagesse, qui a un côté un peu, voilà, il paraît un peu ancien avec ses gros sourcils, et peut-être un peu immobile dans la journée. Dans le livre des Proverbes, on voit plutôt la fourmi ou l'aigle. Alors il y a plein d'animaux dans le livre des Proverbes, mais alors c'est juste après, au cas où j'ai mis une image, si vous ne vous souvenez pas à quoi ça ressemble, je peux avancer. Ouais, encore une fois. Ouais. Voilà. La sagesse ne réside pas d'abord dans des grandes connaissances, dans une grande maîtrise du langage ou même dans une théologie raffinée. La sagesse, selon Jacques, elle est pragmatique, elle est visible. Pragma, c'est un mot qui est utilisé dans le texte. La sagesse, elle doit se traduire par un comportement juste. Alors pour nous, dans notre culture, c'est un concept un peu étranger. Nous, on ne parle plus trop de sagesse, on parle de compétence. Il faut des gens compétents. Et puis on prétend que ça n'a pas de rapport avec ce qu'ils peuvent démontrer de sagesse dans leur vie privée. Souvent, il y a des scandales qui éclatent et on dit oui, non, mais c'est sa vie privée. Peu importe, c'est sa vie privée. Et pourtant, pour nous, c'est une sagesse qui doit se traduire en pratique. Moi, je pense que ça me semble assez fort, même si bon, la portée est peut-être limitée quand même. Vous avez entendu parler de Friedrich Nietzsche, qui est donc le philosophe de notre temps. En fait, il est un peu. C'est un quasi-prophète, en fait, un philosophe de la fin du XIXe siècle. Bon, cet homme, voilà, sa philosophie est vraiment ce qu'on applique aujourd'hui dans les médias, etc. Se réaliser, peu importe la vérité, etc. Cet homme a sombré dans la folie. C'est pas. Enfin, je veux dire. Quelque part, ça me frappe à quel point la sagesse de notre temps est marquée par cette folie. Enfin, c'est qu'un petit aperçu. Ce décalage, en fait, ce décalage entre ce qu'on prétend être, les compétences qu'on prétend mettre en œuvre, peut-être, et ce qu'on est, la Bible appelle à un mot pour ça, elle appelle ça l'hypocrisie. Peut-être des symboles de cette hypocrisie dans la Bible, c'est peut-être Salomon. Salomon qu'on connaît pour sa grande sagesse. Un grand roi, donc qui avait demandé de la sagesse à Dieu, et qui a eu de la sagesse pour les autres, pour juger les autres. Mais pour lui-même, ça a été une catastrophe. il a vécu une vie pharaonique, il a eu des centaines de femmes, des centaines de maîtresses, etc. aussi. Et puis, la fin de sa vie a été marquée par l'idolâtrie. La première exhortation de Jacques pour nous, c'est un peu la phrase qui avait été dite aussi ailleurs dans le Nouveau Testament, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Si tu prétends être sage, avoir des paroles de sagesse pour les autres, il faut que cette sagesse soit visible dans ta vie, dans nos vies. C'est ce que dit ce verset, « Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. » Et alors, ces quelques versets nous présentent deux voies. C'est assez classique. Hein. Dans la littérature de sagesse, on présente souvent deux chemins. Dans les proverbes, c'est classique. Et même aussi dans les paraboles de Jésus. Il y a la sagesse d'en bas. Et on va décrire ses origines, ses caractéristiques et ses conséquences. Si vous avez la Bible sous vos yeux, vous verrez les versets. Et on va les dérouler les uns après les autres. Et tu peux continuer. Donc ouais, ce que j'ai choisi un peu comme symbole hein, pour ça, c'est la tour de Pise. Tour de Pise, une très belle tour, mais mise sur un seul meuble. Et il s'est trouvé qu'elle est partie de côté. C'est une image de Jésus. Le fou a bâti sa maison sur le sable, dans la fin du sermon sur les montagnes. Et voilà, la sagesse de ce monde qui vacille, par opposition au sage qui construit sur le roc. Et ensuite, on a la sagesse d'en haut, et de la même manière, mais dans le désordre, son origine, ses caractéristiques et ses conséquences. Donc c'est très simple comme texte. Alors là, l'image que j'ai choisie, c'est plutôt l'arbre. Là, c'est plutôt une image des psaumes. Enfin, on la retrouve souvent. L'image de l'homme qui suit la loi de Dieu, c'est l'homme qui est comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau qui donne du fruit, par opposition aux méchants qui sont emportés par le vent comme la paille. Alors, premier verset, enfin du coup, le verset 14, les caractéristiques de la sagesse d'en bas. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Deux caractéristiques marquent la fausse sagesse, une jalousie amère et un esprit de rivalité. J'ai entendu, il n'y a pas très longtemps de ça, à la radio, une émission sur les frères Goncourt, qui ont donné leur nom au prix Goncourt, un prix littéraire. Et alors, ces deux hommes, ils ont fréquenté le gratin des grands auteurs du 19e siècle, et ils ont raconté leur vie dans un journal. Alors, c'est assez fou de se dire que fréquenter Balzac, Hugo, Flaubert, Zola, Stendhal... Baudelaire, enfin, toutes ces personnes se sont croisées, ont discuté, se sont côtoyées. Et il y a un livre qui, en 2010, est sorti et il s'est basé notamment sur le livre des frères Goncourt. Ce livre s'intitule « Une petite histoire des haines d'écrivains ». Juste aussi, j'ai mis leurs photos après. Alors, ils sont très souriants et je vous assure, c'est les premières photos que j'ai trouvées sur Internet. Ça, c'est les frères Goncourt, donc. Ce petit monde littéraire, ces hommes sages hein, qui ont aussi influencé notre temps, était un monde mesquin, un monde où il y avait des coups bas, des insultes, parfois même des bagarres, il y avait des bagarreurs, hein, Théophile Gautier notamment. Bon, alors la plupart du temps, c'était masqué. On est entre gens bien propres sur eux. On va se faire des petites piques déguisées parce qu'on est raffiné. Mais il y avait cette haine profonde qui gangrénait ce milieu-là. Il y a une citation de Victor Hugo que je trouve assez frappante, qui a été notée par les frères Goncourt. Il n'y a de vraies haines que les haines littéraires. Les haines politiques ne sont rien. Il a été homme politique aussi. Et il savait de quoi il parlait. Qu'il n'en soit pas de même parmi nous. En fait, l'homme sans Dieu, qu'on a tous été et qui peut-être demeure encore chez beaucoup d'entre nous, il y a Jean qui parlait de l'ancien homme qui a survécu au baptême. Hein, et on en discutait avec Joël quand il nous donnait cette image. On va dans l'eau du baptême et on en ressort et on se dit peut-être que l'ancien homme a été noyé. Et il y a des anciens hommes qui sont des bons nageurs. Avec Joël, on se disait « Non, moi, c'est Michael Phelps, mon ancien homme. » L'homme sans Dieu désire s'affirmer, s'imposer. Il a besoin de se justifier lui-même. Il n'a pas cette cette liberté qu'ont les enfants de Christ, il a ce zèle, tu peux revenir au texte, enfin, continuer le diaporama là. Il y a la jalousie amère, le mot qui est utilisé, qui n'est pas un mot négatif en soi, c'est zèle. Mais c'est le zèle amer, on ajoute ce mot. C'est un zèle qu'on peut déployer même dans une religion, une piété. Hein. Mais il y a cette amertume qui nous fait soit envier ceux qui sont plus haut, qui ont ce qu'on nous on désirait, et ou même considérer ceux qui nous ressemblent comme des rivaux. Il faut qu'on se soulève un peu au-dessus des autres pour se sentir exister. Et tout est bon pour ça, pour y arriver, notamment d'utiliser une sorte de sagesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand quelqu'un raconte un épisode de sa vie, très souvent, c'est lui le héros. Et ça peut nous arriver aussi. Ça me fait penser souvent à ces livres-jeux. Alors, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais quand j'étais gamin, il y avait ces livres où c'était l'histoire dont vous êtes le héros. Et on pouvait choisir, à la fin des chapitres, l'action à la place de l'auteur, du héros. Y a même parfois dans la conversation des gens... Enfin, on peut se sentir même des fois à inventer des trucs pour se faire mousser. On a besoin de ça, on a envie de surpasser. Des fois, ça se fait pas tellement au niveau des conversations, mais des rêveries. On s'arrête, on se met à s'imaginer... dans une situation où on susciterait l'admiration des gens. Et c'est comme si on avait une revanche à prendre. Il y a des gens comme ça qui, à la moindre offense, à la moindre invective, ils vont commencer, même des fois, des choses qu'ils considèrent comme une offense, mais personne ne les a vues. Hein. Ils vont partir au quart de tour, et dans les mots, dans les gestes, ils vont s'agacer. On se comporte comme si on avait quelque chose à prouver. Et nous, si nous sommes chrétiens, en tant que chrétiens, on ne devrait pas avoir cet état d'esprit. Cet état d'esprit ne correspond pas à la logique de notre état. D'ailleurs, on doit d'abord être à l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il s'est pas défendu brutalement. Il s'est laissé, quand il s'est s'agit de sa personne, quand il s'est laissé battre, il s'est laissé même mettre à mort. Il ne s'est pas battu pour avoir la richesse, pour avoir l'approbation des gens, l'admiration. En fait, bien au contraire, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Si nous sommes en Christ, nous n'avons rien à prouver. Il y a ces versets qui nous disent « Nous avons tout pleinement en Christ. » Dieu nous a donné toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. On devrait être pleinement reconnaissant. La revanche, elle appartient à Dieu. Nous avons tout reçu. Alors, il n'y a pas de quoi être fier. Ne faites pas les fiers. Quand on prétend être sage et qu'on a cet esprit de rivalité, cette envie asservissante de dépasser les autres, ce n'est pas qu'on est en chemin, qu'on n'est pas arrivé. Non, Jacques nous dit, vous mentez. Vous avez zéro. Il n'y a pas de quoi être fier. Et de toute façon, pourquoi être fier? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est 1 Corinthiens 4, verset 7. La vraie sagesse n'est pas hautaine. Et au fond, cette fierté qu'on pourrait chercher à créer est en fait une marque de fragilité. On est le fou sur le sable qui sent le sol vaciller. On se débat pour garder la tête hors de l'eau. Et si notre vie est fondée sur le roc, si elle est fondée sur Christ, on est sur un roc. Alors, l'origine de cette sagesse, c'est au verset 15. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire humaine, terrestre, je vais vous le lire dans la version ici, terrestre, purement humaine, démoniaque. Donc l'origine de cette sagesse, elle est décrite par ce triptyque qu'on connaît bien, hein, on pourrait traduire le monde, la chair et le diable. J'ai détaillé cette fausse sagesse d'abord terrestre, c'est celle qui se borne aux réalités d'ici-bas. Il y a ce mot de Paul, hein, la mentalité terrestre, et on l'entend un peu, hein, pas sous ces mots, dans les films, dans les publicités surtout. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Hein, il faut en profiter, on se calque sur la mentalité du monde. On est tous obsédés par nos propres expériences, par les accomplissements. Il faut s'épanouir aujourd'hui. Il y a vraiment une pression importante pour dire il faut réussir, il suffit d'y croire, il suffit d'avoir la volonté. Et en fait, c'est faux. C'est vraiment faux. C'est Dieu qui décide. Rien n'est possible sans la volonté de Dieu. Notre volonté, c'est un plus, mais s'il n'y a pas la volonté de Dieu, ça ne se fera pas. On veut donc, dans cette vue à court terme, voir la jouissance tout de suite ici-bas. Il faut oublier que notre vie est courte, il faut oublier la souffrance, il faut être dans cette frénésie. Le mot purement humaine, dans certaines versions on dit animal, c'est non spirituel. Hein. C'est ce qui correspond, je pense, à la chair. C'est ce qui vient de notre tréfonds, notre ancien homme dont on a parlé juste avant. C'est plus l'influence extérieure du monde, mais c'est ce qui vient de nous. C'est ce qui est de l'ordre de nos pulsions animales. On cherche à assouvir bestialement peut-être nos besoins. Ça me faisait penser un peu aux rats de laboratoire. Vous savez qu'on fait des expériences sur des rats. Et dans certaines occasions, pour les stimuler, on leur donne de la morphine pour essayer de voir s'ils arrivent à faire un parcours plus facilement, s'ils sont stimulés. Et certains rats deviennent addicts, en fait. Hein. Ils sont là à appuyer sur la morphine pour avoir leur dose. Parce qu'ils ont bien compris comment ça marchait, et même à oublier de se nourrir, à oublier de trouver l'essentiel. Une sagesse animale. Triste état hein, que d'être gouverné par sa chair, on dit « fais ce que tu veux » et finalement c'est nos désirs qui nous asservissent. Et une sagesse qui est au fond démoniaque, qui vient de l'adversaire avec un grand A. On n'en parle pas souvent du diable parce que c'est pas à la mode, mais c'est le troisième ennemi pour nous. Le monde, la chair et le diable. Le diable dont la motivation, c'est la haine de Dieu, la destruction. Il veut attiser la rébellion qui est en nous, cette volonté d'émancipation de Dieu. Et la folie, c'est que c'est l'émancipation de la source de la vie. Alors, les conséquences d'une telle sagesse, c'est le verset suivant. Quelles sont les conséquences de cet esprit de rivalité? Là, en effet, où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Après ce qu'on a dit, ça paraît assez logique. Là où ceux qui devraient unir et construire divisent, cassent, il y a de l'agitation, du désordre, de la confusion, dans ce mot-là. Tous les coups sont permis. On dit la fin justifie les moyens. Machiavel, peu importe, hein, l'important c'est d'acquérir notre but. Alors qu'on a tout pleinement en Christ. Chez les Goncourt, la haine est l'invité de Marc. C'est l'invité qu'on remarque. Et c'est frappant, il y a un commentateur qui disait « Mais à votre avis, mais pourquoi on n'a pas réglé le problème de la guerre ?» Alors nous, on est un peu dans une exception en France. Hein. Sur notre territoire, il n'y a pas eu de guerre depuis plus de 60 ans. On a l'impression que ce n'est plus un problème. Mais je vous invite à aller sur la page Wikipédia qui s'appelle « Les listes des guerres contemporaines ». Ça vous permettra de voir l'actualité autrement. Si vous trouvez que les 20 heures sont pessimistes, là vous changerez d'avis. Il y a la liste des morts. Il y a encore une quinzaine de conflits où il y a plus de 1000 morts par an en ce moment. Hein, des pays dont on ne parle pas, Congo, Darfour, Sud-Soudan, Somalie, Yémen. Il y en a plein d'autres encore, hein, le Mexique. Vous allez voir qu'on est épargné. Cette sagesse terrestre, animale et démoniaque, elle est destructrice. Et même à notre petite échelle, vous avez pu vivre des expériences où des gens se déchiraient par rivalité, par envie d'être celui qui a raison, qui a le dernier mot. Ce zèle amer n'apporte rien de bon. Alors heureusement, on arrive maintenant à la sagesse d'en haut, qui est un petit peu plus positif. Alors, son origine... j'ai pas mis de. Donc c'est aussi dans c'est le même. Voilà, c'est quand même, c'était bien le slide. L'origine avant Corée. L'origine de la sagesse d'en haut, elle est d'en haut. C'est, ouais, tu vas y arriver. Non, c'est quand même après. Voilà. Non, après.
C'est l'ordi.
Ah, c'est l'ordi. Ok, pardon. En fait, ça me permet de revenir à un verset qu'on a dit au chapitre 1, et on est passé vite dessus. Au verset 5 du chapitre 1, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. » Donc Dieu est généreux et parfaitement sage, on l'a dit. Il donne sans faire de reproche. C'est lui la source de la sagesse authentique. Et en fait, sans Dieu, d'après la Bible, sans Dieu, il n'y a pas de sagesse. Dans sa providence, il peut donner un reste de sagesse aux hommes, mais toute la sagesse vient de lui. Et la Bible répète plusieurs fois que le commencement de la sagesse, la base, il ne faudrait pas dire le commencement c'était ça et après je suis passé à autre chose. Non, c'est la base, ça veut dire le principe de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et alors j'ai noté trois références dans Proverbes, une dans Job, un dans Psaume, il y en a peut-être plus encore. Si nous craignons l'Éternel, c'est-à-dire si nous sommes de véritables croyants, on va faire une étude sur la crainte de l'Éternel, mais je vais vous épargner ça maintenant, je ne l'ai pas préparé. Si nous craignons l'Éternel, c'est que nous sommes des véritables croyants, et dans ce cas-là, nous avons accès à la sagesse. Et alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'a souvent frappé. Je suis dans un milieu un peu intellectuel, des gens qui ont fait des hautes études, machin, et donc qui se sentent facilement assez sages. Hein. Il suffit d'avoir un petit peu de culture et les gens très vite ils se disent waouh, il est sage. Mais voilà, comme on l'a vu, c'est pas là que réside vraiment la sagesse d'abord. Et moi j'étais souvent frappé par des chrétiens qui seraient pas dans les catégories de sages selon le monde, qui font preuve d'un discernement. Des fois je me suis dit, oh là, mais il y a une hérésie là, les gens vont se faire avoir, c'est pas possible. Et puis les gens disent, oui, effectivement, il est encore en chemin. J'ai dit, ah ouais, non, en fait. Il y a une sagesse que Dieu donne, et vraiment, si vous êtes en Christ, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Bien sûr, vous n'êtes pas une sagesse accomplie, celle parfaite de Dieu, mais Dieu fait déjà une œuvre dans votre vie. Si vous êtes vraiment en lui, par sa parole, par la parole de Dieu, son esprit qui l'applique à vos cœurs, vous avez accès à cette sagesse et elle fait déjà des œuvres dans vos cœurs. Dans le prophète Joël, il y avait ce verset « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». La Bible est propre à enseigner la sagesse de Dieu avec l'assistance de l'esprit. Et l'esprit habite dans tous ceux qui appartiennent à Christ. Alors, si nous manquons de sagesse, j'ai bien peur que parfois on manque encore de sagesse, demandez-la à Dieu. Ça, c'est une vraie prière. Il nous a dit « Demandez-le-moi ». Je vous la donnerai, je ne ferai pas de reproche. Il ne dit pas encore toi, mais qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné jusqu'ici? Non, non. Nous, on aurait tendance à faire ça. Mais lui, il est plus sage. Alors, les caractéristiques de la sagesse d'en haut, alors c'est ce verset. On a vu les deux caractéristiques de la sagesse d'en bas, la jalousie. Amer et puis l'esprit de rivalité. Et là, on nous en donne sept. Un peu, c'est les branches de cet arbre de sagesse. Il y a sept groupes nominaux, un nombre de plénitudes. Et Jacques a décidé que ses lecteurs devaient les apprendre par cœur. Alors, à force de l'étudier, je les connais, mais je vous invite à le faire. En fait, en grec, il a mis que des mots qui commençaient par E, sauf sauf les deux derniers qui commencent par A. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Je ne sais pas ce que ça vous fait. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure. Elle est un peu en tête et de là découlent tous les autres. Première caractéristique, la sagesse est pure. Alors Jacques aime les phrases directes, hein, on l'a déjà dit. Il ne s'agit pas simplement d'avoir la conscience nette. Il y a dans cette notion de pur le fait qu'il n'y ait pas de mélange. Hein. Et dans ces motivations, on est entier. Il y a une sagesse transparente qui ne cache pas une ambition des calculs, par opposition à la sagesse d'en bas qu'on a vue, bien sûr. Et bien sûr, cette pureté, si ça nous ronge hein, quand on met un mot comme ça devant nous, c'est qu'elle ne vient pas de nous. Cette pureté, elle nous est donnée par Jésus-Christ, qui lui a montré la pureté que devait avoir l'homme. Et sur la croix, il nous accorde d'être pur devant Dieu et de commencer à manifester cette pureté dans nos vies. Il doit avoir, si vous êtes chrétien, vous devez avoir des nouvelles motivations, cette nouvelle nature qui transforme peu à peu votre état d'esprit. Je l'ai dit, donc c'est cette pureté, cette sagesse d'abord pure, D'où découlent un peu tous les autres caractéristiques. Et, je vais citer un verset, je vais en citer plusieurs fois des versets de ce discours de Jésus. En Matthieu 5, verset 7, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alors cette sagesse est ensuite porteuse de paix, pacifique, une sagesse qui cherche activement la paix. C'est l'opposé de l'attitude revancharde qu'on décrivait tout à l'heure. Christ nous a donné la paix avec Dieu, c'est encore quelque chose qui nous est donné. Si nous sommes sous ce régime de paix, nous n'avons rien à prouver. Être en paix avec Dieu, en paix avec soi, en paix avec les autres aussi, par la puissance du pardon, voilà qui apaise. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, en Matthieu 5 aussi. La sagesse est d'en haut et douce. Et douce, là il y a la notion de douceur, et même plus que, c'est pas la question de faiblesse, C'est plus que la douceur telle qu'on la conçoit immédiatement. Ce n'est pas une abdication, mais c'est de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Ce serait peut-être le fait de passer sur un affront, de laisser passer une injustice dont on serait la cible parce que finalement, peu importe. Le Seigneur aussi a été persécuté. D'abord, je cherche à servir Dieu. La justice lui appartient. C'est cette douceur qui va loin. Heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Alors cette sagesse est ensuite conciliante. Alors là, le traducteur a fait ce qu'il a pu. Il va y avoir différentes versions. Je crois que c'est un mot qui n'a pas beaucoup d'équivalent en français, et rien que ça devrait nous faire réfléchir. C'est un mot qu'on pourrait peut-être traduire par raisonnable, dans le sens que c'est quelqu'un qui se laisse convaincre si on lui donne des raisons suffisantes. Il ne s'agit pas d'être de l'avis du dernier qui a parlé, il ne s'agit pas d'être facilement influençable, mais il s'agit de savoir, d'être enclin à changer d'avis, pas à se murer dans les positions, à être têtu bêtement, mais au contraire, à être enclin à changer de position, de savoir admettre que on n'a pas toutes les réponses, qu'on peut avoir tort. Ça c'est voilà, un joli plan pour nous aussi, savoir être quelque part raisonnable. Une sagesse qui est pleine de miséricorde et de bons fruits. Une sagesse qui se traduit avec des actes d'amour, de compassion, de beaux et bons fruits de la sagesse. Alors, le sage dans la Bible, il n'est pas enfermé dans sa bibliothèque, dans sa grotte, ou méditant en sustentation. Son cœur est là, il n'est pas loin, il compatit. Il ne dit pas « tu trouveras ta voie », etc. Non, il y a quelque chose où le sage a de la compassion. Le sage par excellence, c'est Jésus. Et il a fait preuve de compassion. Il a regardé les gens avec amour et il a agi pour le bien. Il nous invite à agir pour le bien de nos frères, de nos sœurs, des étrangers que nous connaissions moins. Il est dans l'action pour le bien des autres. Il considère que ce n'est pas chacun pour soi, comme dans la sagesse en bas. Que ce n'est pas chacun son problème. Et dans Matthieu encore, Jésus nous dit « Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. » La sagesse est sans parti pris, elle est impartiale. Aussi, une petite note là, nous on a des adjectifs, mais dans le texte, c'est des adverbes, c'est des pour ajouter à l'action. Donc nous, bon, en français, c'est plus facile de traduire par des adjectifs. Je crois que peut-être c'est plus masculin de se dire de manquer de douceur, d'être un peu brutal, rentre dedans. Bien sûr, personne n'est épargné. Et pour la partialité, je dirais que peut-être qu'une femme serait plus encline à en faire preuve, d'avoir un peu un esprit de clan. C'est eux contre nous. Et il n'en est pas ici. Encore une fois, il n'en est pas ainsi de la sagesse selon Dieu. On juge avec droiture, on est serein, tout est entre les mains de Dieu. On n'a pas de préjugés pour les autres. Dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et enfin, une sagesse qui est sans hypocrisie. Alors, on a déjà parlé de l'hypocrisie, mais c'est bien que ça finisse par ça. On pourrait faire semblant sur tous les points précédents. Mais Dieu connaît nos cœurs. On n'est pas là, d'ailleurs, pour faire semblant. Ce n'est pas un jeu, la vie n'est pas un sketch. On n'est pas là pour faire des acteurs, c'est le mot original de hypocrite. Les conséquences de nos actes et de nos pensées nous affectent nous directement et pas un personnage fictif. Dieu nous veut entier et sincère. Une traduction aussi, ça pourrait être sincère. Nos frères aussi, d'ailleurs, nous veulent entier et sincère. Et l'expression ici qui est donnée, c'est un seul mot. Alors, je vous le dis, anupokritos. Hein. C'est un mot qui est utilisé 6 fois dans les Épîtres par Paul, Jacques ou encore Pierre. Et le mot hypocrites, donc qui a donné hypocrite, il est utilisé 18 fois dans le Nouveau Testament. 18 fois par Jésus. Dans les évangiles. Et la plupart du temps, quand Jésus dit hypocrite, il s'adresse à des gens qui se disaient croyants. À des gens qui étaient même assez pieux. Que Jésus ne nous appelle pas ainsi lorsqu'il reviendra. Alors les conséquences, c'est le dernier verset de notre texte, et je vais un peu conclure là-dessus. Qu'est-ce qui serait agréable de vivre avec des personnes qui aient cette sagesse pure, pleine de miséricorde, pacifique, qui soit prêt à changer d'avis, qui soit impartial, qui n'ait pas d'hypocrisie. Des hommes sincères, etc. C'est ce qu'on est censé vivre dans l'Église. Je crois que, encore une fois, des fois on ne s'en rend pas compte parce qu'on peut-être qu'on est trop entre nous. Mais on le vit déjà un peu. Même si peut-être pas assez. Et en fait, ce verset, il nous dit quelque chose de mieux que cela encore. Il parle d'un principe biblique qui revient très fréquemment, le fait qu'on récolte ce qu'on sème. On sème, on récolte. On va voir au chapitre 5 le moissonneur aussi arriver. C'est un principe de la Bible. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Le vrai sage travaille à la paix. Celui qui est sage, donc, sème la paix et récolte la justice dans la paix. Cette justice, c'est une justice qu'on va, sur le long terme, voir et vivre dans l'Église. Il ne s'agit pas de la justice du salut, là, dans ce texte. C'est quelque chose qu'on va vivre ensemble. Et c'est un témoignage très fort, hein, c'est vrai, de la paix de Dieu dans nos vies, dans nos communautés, de ce que peut faire Dieu pour nous rendre si sages. Et j'ai été frappé, alors pour l'occasion, j'ai relu le livre des Proverbes, et j'ai été frappé par ces textes qui parlent des bienfaits de la sagesse. On a lu, c'est aussi pour ça que je voulais les ai lus, les béatitudes de Matthieu 5. Heureux celui qui montre la vraie sagesse, on pourrait résumer. Et en fait, c'est ça la folie de la fausse sagesse. La fausse sagesse, on cherche à atteindre ses propres buts. On cherche quelque part ce qu'on croit être notre bonheur. Mais au bout du chemin, on est dans le malheur, dans le désordre. Tout autour de nous et puis dans nos propres cœurs. Et la Bible nous dit que celui qui aime la sagesse, aime la vie. La sagesse, au fond, est une source de bonheur. Même quand on rencontre les difficultés. Je vais vous lire quelques versets. Il y a ce verset de psaume 34. « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Notre verset de Proverbe 13. Verset 14, « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Enfin, dernier verset dans Proverbe 16, verset 22, « La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. » Alors, que le Seigneur éternel, seul sage, nous transforme et nous donne sa vraie sagesse, qu'il nous réconcilie, qui nous donne cette sagesse qui procure la paix et qui nous rend heureux. Et je prie. Dieu et Père, on te remercie pour ces quelques mots qui nous exhortent, qui nous font peut-être rechercher au bon endroit ce qu'on pourrait chercher autrement. Donne-nous d'être sages. Donne-nous d'être transformé par ta parole pour avoir ces caractéristiques de paix, de pureté. Donne-nous des vrais motifs. Aide-nous à écarter la sagesse du monde, la sagesse de la chair, et les conseils de Satan. Nous sommes bénis d'avoir tout pleinement en toi. Ouvre-nous les yeux pour le voir. Donne-nous cette assurance et cette paix qui nous permet aussi de nous effacer devant les affronts pour pouvoir témoigner de ton amour. Seigneur, on prie pour les conflits, peut-être les murmures, les rancœurs qu'il pourrait y avoir dans nos cœurs. Toi qui es le Dieu de la réconciliation, qui nous donne l'évangile de la réconciliation et qui nous fait même qui nous invite à faire part de ce ministère de réconciliation, on prie que tu œuvres dans nos cœurs, dans l'Église, pour ta gloire, pour que nous puissions te louer librement et puis avoir un témoignage pour amener des gens à ta paix. Amen.